Salut, c'est Nicolas Jamin. Dans un instant, l'After Italie, on parle de la Roma. Fin de saison, ambition, Gasperini au programme.
RMC, After Italie,
Nicolas Jamin.
Et oui, salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Italie, le podcast 100% Serie A, en podcast mais aussi en vidéo sur YouTube et sur Afterfoot TV, sur vos box SFR Free Orange, vos télés connectés partout. Il est en direct de l'autre plus belle ville du monde, depuis Rome. Daniele Manoussia est avec nous, salut Daniele.
Salut, salut Nico, salut tout le monde.
Et tu es venu avec un de tes amis également, journaliste, confrère italien, qui vit à Rome, aussi grand supporter de la Roma. Il est avec nous, Francesco Masselli. Salut Francesco.
Bonjour, salut tout le monde.
Ah oui, on a sorti les maillots là. Francesco, c'est quoi ce maillot? Raconte-nous son histoire.
C'est le maillot de Vucinic, porté par lui en Serie A. Donc c'est même signé. Donc voilà, ça fait beau de pouvoir le mettre avec vous.
Magnifique. Daniel est magnifique aussi, la touche romaine. Maillot différent, singulier, ça ressemble à une collaboration. Tu nous en diras plus tard, mon cher Daniel. Cette semaine, vous l'avez compris, je crois, c'est assez clair. On va parler d'un club cher à vos cœurs, messieurs. Et c'est pour ça qu'il vous rend fou. Mais où va la Roma? 18 ans, sans trophée dans son pays. C'est l'Olympique de Marseille, un peu de la Serie A, le club qui déchaîne les passions des médias, des tifosi. Et c'est chaud en ce moment. Guerre interne entre Ranieri et Gasperini. Qui va l'emporter? À quand un retour en Ligue des champions pour la Roma? Les Romanistas n'en peuvent plus d'attendre. À quand le retour d'une grande Roma, tout simplement? Voilà ce qui nous réunit cette semaine. C'est parti pour l'After Italy. Alors, avant de parler des tensions en interne, et Dieu sait qu'il y en a, le classement de Serie A pour se rendre compte que rien n'est perdu, vraiment, pour la Roma tout de même, une qualif pour la prochaine Ligue des Champions est encore mathématiquement possible. Sixième à 5 points de la quatrième place de la Juve. Faut-il encore y croire, Daniele? Et est-ce que les tifosi de la Roma y croient encore aujourd'hui?
Moi, personnellement, je te l'ai déjà dit il y a quelques semaines, dans les Drôles des Dames, je pense que ça fait justement deux ou trois semaines qu'on n'y croit plus. La Roma, elle a perdu l'énergie qu'elle avait dans son meilleur moment. Elle vient de récupérer Dybala, mais on va voir dans quel état. Elle a toujours beaucoup de blessés. Il y a ces tensions internes qui n'aident pas. Et même dans les calendriers, franchement, il y a un match plutôt que les autres compliqué, que c'est le derby contre la Lazio, qui en plus, elle est dans un bon moment des saisons. Elle vient de concourir une place pour la finale des Coupes d'Italie et elle joue globalement bien. Voilà, ça sent plutôt les brûlés pour la Roma, la fin des saisons brûlées.
15 points encore à prendre, 5 points d'écart avec la Juve. Tu partages la même opinion, Francesco, que Daniele, là, sur les chances de la Roma, alors qu'on voit le calendrier, là, justement. Que les équipes en dessous au classement de la Roma, d'ailleurs. Bologne, Fiorentina, Parme, la Lazio et la Sverone.
Oui, mais 5 points en 5 matchs, c'est presque impossible. En plus, la Juve, il me semble qu'ils sont dans un moment de jeu et de forme qui se sentent bien. Ils gagnent les matchs et la Roma est en difficulté physique parce qu'ils jouent toujours les mêmes. Après, on va en parler aussi de la gestion de la sélection. Ensuite, il y a ce problème mental aussi, la guerre entre Gasperini et Ranieri qui n'aide pas. Et donc, je vois très, très difficile d'arriver quatrième place parce que ça voudrait dire une débâcle à Juventus et j'y crois pas.
Bon, on n'y croit pas, on l'a compris, c'est ce qui nous réunit aussi. Justement, vous en avez parlé tous les deux, vous en avez fait allusion, les tensions en interne entre deux dirigeants du club. D'un côté, le conseiller Claudio Ranieri et de l'autre, l'homme qui est arrivé en provenance de l'Atalanta, Gasperini. Première saison éprouvante émotionnellement pour lui. Regardez, écoutez ce passage en conférence de presse avant le match contre l'Atalanta, qui s'est terminé par un match nul, une déception pour la Roma. Il a été interrogé à plusieurs reprises sur sa relation compliqué, tendu, voire houleuse avec Ranieri. Et il s'est passé ça surtout.
Le club avait changé un peu parce que le père auquel j'étais certainement plus attaché n'était plus là.
C'est une séquence très forte. Précisons le contexte quand même pour expliquer pourquoi il part ému. Il craque complètement Gasperini. Il parlait de son ancienne aventure à l'Atalanta et la gorge s'est nouée, Daniele.
Oui, ben forcément Gasperini, il a cette femme d'homme compliqué, dur, qui se dispute avec beaucoup de monde. L'année dernière, il a tiré son cahier de notes contre un journaliste. Donc il a ces caractères-là. Quand il y a eu la dispute avec Ranieri, et tous les doigts étaient pointés contre Gasperini. Bien sûr, c'était lui qui venait mener les problèmes dans l'Armada. Donc il s'est senti touché sur le côté personnel. Et donc ce qu'il venait de dire avant de craquer pendant ces discours-là, c'est qu'il n'est pas une mauvaise personne. Il avait eu de bons rapports à l'Atalanta parce qu'il se sentait protégé, notamment le père de Percassi, qui est là maintenant, il est le président de l'Atalanta, mais son père, qui était le président avant, le protégeait, il le soutenait, même quand les choses n'allaient pas bien. Donc, ce qu'il est en train de dire, entre guillemets, c'était « aidez-moi plutôt, soutenez-moi ». Il n'a pas ça en ce moment à la Roma, et je pense qu'il n'a jamais eu ça dans sa vie, aussi pour son caractère, qui c'est franchement un caractère pas facile.
Qu'est-ce qui se passe alors? Il faut être très, très clair là-dessus sur les relations entre Ranieri et Gasperini. Est-ce que dès le départ, Ranieri a validé le choix Gasperini à la Roma? Comment ça s'est passé?
Alors oui, c'est deux hommes très différents. Mais quand Ranieri l'année dernière était l'entraîneur de la Roma, il faut savoir ça déjà. Après, il est devenu senior advisor, c'est-à-dire conseiller de Friedkin. La Roma, elle a viré les CEO, le PDG, on dit en français. Donc la Roma, elle n'a pas de PDG. Il y a le président, Friedkin, il y a Ranieri au milieu et Gasperini. Il n'y a personne entre les deux. Donc si Gasperini et Ranieri ils se disputent, il n'y a que le président qui peut prendre des décisions ou essayer de leur faire faire la paix. Ranieri, au début, il aimait Gasperini, il a dit c'est ce qu'il nous faut, quelqu'un qui n'est jamais content, qui veut s'améliorer tout le temps. À Rome, on dit toujours qu'il faut quelqu'un avec un caractère fort que nous maltraite, quoi. Comme Mourinho l'était un peu, qui n'est pas romaine, qui n'est pas trop gentil. Par contre, après, je pense que Ranieri, à un certain moment, il s'est rendu compte que Gasperini, il était vraiment dur, aussi en coulisses, qu'il se plaignait toujours, aussi avec eux. Il s'est plaint du mercato, qui n'était pas bon. Ça, c'est objectif, c'est pas la faute à Gasperini. Il a travaillé avec une équipe qui est mal faite, qui a beaucoup de trous. Après, il y a eu beaucoup de blessés aussi, et lui, il n'a pas très utilisé certains jeunes joueurs. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'on lui demandait forcément de travailler seulement sur les jeunes. Gasperini, c'est aussi l'ambition d'aller ici, dans quelques ans, jouer une finale d'une Coupe européenne ou jouer le championnat. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un clash entre les deux caractères, mais aussi un clash d'ambition, parce que la Roma s'est retrouvée dans une énième saison où il n'y avait rien à gagner, où il n'y avait pas un vrai objectif, où il n'y avait pas les moyennes. Et je pense que Gasperini ne l'a pas aimé, et Ranieri ne l'a pas aimé le fait que Gasperini le disait. Mais après, bon, c'est Ranieri aussi qui l'a craqué, parce que Gasperini n'avait rien dit à l'occasion.
Qui, Francesco, a le soutien des tifosi de la Roma? Plus Gasperini, la légende romaine, ou ils comprennent que l'avenir, c'est surtout et avant tout Gasperini?
Je crois qu'au début, Ranieri était perçu un peu comme le garant des tifosi, parce que lui, il est romain, il est un fan de l'AS Roma, il est un peu l'homme d'image de cette équipe et de la société qu'il a choisi pour ça, en fait. Il l'a choisi parce qu'il voulait donner un peu de gage aux tifosi et leur dire « Écoutez, on met comme dirigeant, pas avec les pleins pouvoirs, parce qu'on ne peut pas avoir les pleins pouvoirs, mais avec beaucoup de pouvoir, un de vous ». Et donc, au début, les tifosi des romanistes étaient avec Ranieri. Après, cette sortie qu'il a eue la semaine, il y a 10 jours, de dire d'aller contre Gasperini publiquement et donc de protéger en fait sa personne et son équipe, parce qu'il y a une partie de l'équipe de Gasperini qui a été choisie par Ranieri, notamment le staff sanitaire avec lequel Gasperini se dispute. Donc, la défense de Ranieri public n'a pas été seulement à sa personne, mais aussi à son équipe, et ça a été mal perçu, je crois, pour une partie du public, notamment au stade. On a vu des mots de la Curva Sud qui étaient contre, en fait, Ranieri, qui disait il faut respecter l'AS Roma, il faut respecter notre histoire. Et donc, je crois qu'il y a un petit glissement des tifosi du côté de Gasperini, aussi parce que l'AS Roma est une chose sérieuse, donc il ne faut pas se disputer publiquement sur ça. Et je pense aussi que les tifosi en ont marre de changer tous les ans les entraîneurs. Les Friedkin ont changé 6 entraîneurs en 6 ans et 7 directeurs sportifs. Et donc ça aussi, le Romain en a marre. Il veut un projet, un vrai projet pour gagner. Et ensuite, l'année prochaine, c'est l'année du centenaire. Et donc, c'est très important de rester avec la même guide.
Exactement. Alors, le guide d'aujourd'hui, en tout cas le garant, c'est Dan Friedkin, le patron du club, la famille Friedkin bien sûr qui détient la Roma. Que dit-il? Que fait-il? Est-ce qu'il s'exprime? On a appris hier, Daniele, qu'il apporte tout son soutien à Gasperini justement, c'est l'homme au centre du projet et pour quelques années, c'est bien ça?
Oui, ben en fait, il faut savoir aussi que les journalistes à Rome, ils sont partagés. C'est-à-dire, il y en a qui, en gros, ils protègent Gasperini en donnant son point de vue, et il y en a qui protègent Ranieri en donnant son point de vue. C'est vraiment très, très marqué, cette distinction dans la presse, surtout dans les radios romaines. Et après, ils ont dit aussi que Friedkin, par contre, il veut garantir sa place aussi à Ranieri. Et j'ajoute une chose. Si Ranieri, il avait dit quelque chose quand il a parlé contre Gasperini, parce qu'il a dit... moi, j'avais choisi trois autres entraîneurs. Gasperini, en gros, c'était le quatrième. Il n'y a pas un seul joueur qu'on a pris que Gasperini ne connaissait pas. Donc, en gros, il n'a pas à se plaindre du mercato. Si Ranieri il avait dit ça sans que Friedkin était d'accord, je pense que Ranieri il a été viré. Il était déjà viré. Donc, je pense que ça, c'était un peu l'opinion de Friedkin aussi. Et aussi l'autre aspect de l'affaire, c'est-à-dire que Friedkin, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup les supporters. Écoute beaucoup le tifosi et il veut faire ce que le peuple, on va dire, roman, lui demandera. Donc je pense que dans ces jours-là, il est un peu en train de prendre la température aux supporters. On va voir, demain, il va y avoir une autre conférence de presse de Gasperini, il va y avoir un autre match. Je pense que d'ici la fin de la saison, il va comprendre qu'est-ce qu'il veut le supporter et il va faire ce que les supporters veulent. Parce que c'est ce qu'il fait le début, c'est un peu... Si tu me laisses utiliser les mots, c'est un peu populiste, Friedkin.
Oui, mais c'est ça, ça ressemble à ça. En tout cas, populiste, se ranger derrière le choix. Francesco, tu voulais réagir également à ça?
Oui, parce que c'est effectivement, c'est le problème de cette propriété. C'est-à-dire que parfois, il faut faire des choix qui vont contre la ville, contre les tifosi, parce que ce n'est pas aux tifosi de choisir les stratégies du club. C'est arrivé, par exemple, à Naples. Naples a viré la moitié de l'équipe historique avant de gagner le Scudetto. Allant contre justement les tifosi, il y avait des protestations contre De Laurentiis et De Laurentiis s'en fiche globalement ce qu'ils pensent les tifosi. Il fait les choses pour le club et c'est arrivé aussi dans d'autres places parce que les sociétés de foot c'est devenu compliqué. C'est pas facile de faire du foot. On pense que tout le monde peut faire du foot, c'est pas vrai. Il y a pas de compétences dans le monde de football et aussi Ranieri c'est une gestion qui n'est pas une bonne gestion parce qu'il a fait l'entraîneur toute sa vie. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire devenir dirigeante. Et donc, ça aussi, c'est un problème, le fait que les Friedkin, ils choisissent toujours des choses un peu ésotiques. Ils ont choisi une dirigeante grecque pour diriger le club. Avant, il y avait ce monsieur portugais, Thiago Pinto, qui était bon, mais c'était sa première expérience à la tête d'un grand club. Donc, il y a toujours ce problème qu'il n'y a pas la compétence pour diriger bien l'équipe, et ça se voit.
Alors, avec Gasperini ou non, avec Ranieri ou non, on va parler maintenant de l'avenir de la Roma, l'ambition déjà sur le prochain mercato et la saison prochaine. L'After Italy avec Daniele Manusia et Francesco. On est ensemble pendant 25 minutes, bien sûr. On a parlé des tensions entre Ranieri et Gasperini. J'avais une dernière question à te poser, Daniele. Est-ce qu'il est possible que Gasperini, on connaît son caractère, décide de partir? J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Ce bordel
sûr.
En interne, c'est pas possible. Entre Friedkin, Ranieri, les tifosi. Ciao.
Bien sûr, mais surtout Gasperini, même quand il était à l'Atalanta, quand c'était plutôt avril, mai, juin, il commençait à se regarder un peu autour et regarder ses options. Et il y a eu plusieurs fois de voir qu'il allait partir. Après, finalement, il est parti. Je pense qu'il a plusieurs possibilités. Si je ne me trompe pas, il y a Naples, parce que Naples, il va compter, il va partir très probablement. Il y a toujours l'équipe nationale italienne qui n'ont pas choisi l'entraîneur. Et ça aussi, c'est une figure, il faut une figure forte qui change tout, qui n'est jamais content et tout ça. Donc, ça pourrait être aussi sur ça Gasperini. Donc oui, c'est bien sûr, c'est une possibilité que Gasperini lui-même décide de partir.
Alors, la suite, l'avenir, bien sûr, le mercato, puisque il va falloir travailler, peut-être renouveler un effectif. On va parler notamment du fameux gang de la 6e place, Daniele. Ça m'intéresse beaucoup qu'on raconte cette histoire-là au sein de la Roma. Quelle est la santé financière de la Roma aujourd'hui? Je disais hier, il faut trouver 80 millions d'euros avant le 30 juin. Les Friedkin ont déjà un petit peu réduit la dette du club.
Oui, il y a cette chiffre depuis le début de l'année. Des fois, c'est 100 millions, d'autres fois, c'est 80, d'autres fois, c'est 50. Déjà, ça dépend de si la Roma, elle arrive au moins à aller en Europa League. Et après, ça dépendra aussi du mercato. C'est presque sûr que quelqu'un doit partir. Quelques pépites, quelques bons joueurs. Il n'y en a pas énormément. Donc, les noms sont ces noms-là. Svilar, Manu Koné, Evan Ndika. Peut-être, après, on baisse un peu le niveau. Il y a Elena Wick, il n'a pas beaucoup joué avec Gasperi, donc il pourrait partir. Mais il est titulaire au Maroc, il a fait une très belle Coupe d'Afrique, donc je pense qu'il, lui, il a des options. Il y aurait Lorenzo Pellegrini, qui chaque année, on dit, mais justement, ça fait partie de la gang de la sixième place, donc il y a aussi des questions politiques. Donc la Roma, elle doit récupérer de l'argent, oui, quelque part, oui, il faut le faire. Mais sinon, bon, je sais pas, je pense qu'il va, il va y avoir aussi d'autres systèmes de finances fantaisistes pour régler un peu les comptes.
Oui, alors des nouveaux sponsors sont arrivés, hein, rémunérateurs, c'est pas énorme, mais Wizz Air pour 2 millions d'euros, Eurobet pour 8 millions d'euros. La Roma attire encore, bien sûr, les sponsors, club extrêmement populaire. Qui doit partir, selon toi, pour tourner la page, Francesco, de la Roma? Quels sont les joueurs qu'il faut soit mettre sur le marché ou dont il faut se libérer simplement parce qu'ils sont des freins à l'évolution, à la progression de la Roma?
Bah, forcément, les quatre joueurs qui vont à l'échéance de leur contrat, donc Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Zeki Celik, Stéphane Echarawi.
Oui,
Echarawi, et je pense qu'avec eux, on ne peut pas continuer. Peut-être avec Pellegrini, mais c'est compliqué parce qu'à un niveau environnemental, il n'est pas aimé par tous les tifosi. Pour lui, peut-être, c'est pour sa carrière aussi, c'est mieux aller jouer ailleurs. Et ensuite, il y a d'autres joueurs qui doivent rester parce qu'ils ont un contrat. Après, s'ils veulent partir et pas, comme Mancini et Cristante. Mais imaginez que l'équipe se structure autour de gens qui sont là depuis presque 10 ans, et donc c'est la fameuse gang de la 6e place qui reste titulaire et qu'on n'achète jamais quelqu'un qui peut leur voler la place. Bah, ça, c'est un problème et c'est un frein à l'évolution de l'équipe. Donc, je pense qu'il faut faire un raisonnement sur ces 6 joueurs. Et surtout, il faut bien choisir des joueurs qui viennent jouer pour augmenter le niveau. On a vu passer des joueurs qui sont minables à l'AS Roma. On joue avec des joueurs qui ne sont pas au niveau de l'AS Roma.
Tu penses à qui en ce moment? Tu penses à qui?
Je pense, par exemple, il y a le latéral gauche, Tsimikas, le grec, qui est devenu désormais titulaire parce qu'Angeligno, le titulaire, est dehors depuis le début de la saison. Mais le même Divine Rensch, c'était l'Hollandais qui a été acheté il y a un an et demi, c'est un joueur médiocre. Donc, il ne peut pas faire le titulaire dans l'AS Roma. Et même ce jeune qui est arrivé, Venturino, qui est un bon joueur, mais il est hyper jeune, il a 18 ans, il n'était même pas titulaire au Genoa et il est presque la première entrée pour l'AS Roma. C'est un peu bizarre. Donc voilà, comme le disait Daniele, le mercato a été pas bon.
Alors, il y a le cas Manu Koné, Daniel, tu as cité évidemment, tu en parles souvent le lundi soir, qui est devenu un taulier du milieu de terrain. Ce serait terrible quand même si la valeur marchande est haute et forte et qu'il y aura beaucoup de gros clubs européens. Si la Roma veut progresser, il faut se libérer, se délester d'un joueur aussi important, et jeune joueur également. Quoi.
Oui. Oui, surtout, il est très aimé aussi par les supporters, parce qu'à la fin de chaque match que la Roma elle gagne, il utilise l'intelligence artificielle pour générer une image d'un loup garou habillé avec les maillots de la Roma, qui au début c'était un peu bizarre, mais après c'est devenu un peu, comment dire, coutume, une habitude des supporters romains d'aller voir qu'est-ce qu'il postait. Manu Koné partager cet esprit d'euphorie après les matchs gagnés. C'est, je pense, entre les 2-3 milieux terrains plus forts du championnat. Par contre, ils ont fait aussi quelque chose qui a ruiné un peu les rapports avec les clubs, parce qu'il était blessé, il est rentré, ils l'ont fait rentrer un peu en toute vitesse, et quand il s'est reblessé, quand il est sorti du terrain, eh ben, il était mécontent. Il n'était pas content contre quelqu'un, c'est-à-dire les staffs médicaux qui l'a un peu obligé à rentrer, parce que Manu Koné, en plus, voilà, il doit jouer sa place pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que ça pourrait aussi peser. Et après, oui, bien sûr, c'est les joueurs les plus cotés qui peuvent ramener le plus d'argent. C'est aussi le plus difficile à remplacer parce que la Roma, pour le moment, il n'y a pas un seul joueur qui est proche du niveau de Manu Koné. Si Gasperini reste, Gasperini joue avec un milieu à deux et il faut courir beaucoup, il faut avoir beaucoup de précision dans les passes, il faut mener la balle, toute chose que Manu Koné fait très bien. Après, je ne sais pas non plus si Manu Koné il va ramener l'argent qu'on imagine, genre 70, 80 millions, parce que c'est quelqu'un qui, quand il rentre dans les derniers 30 mètres, il perd beaucoup de valeur. Donc, je ne sais pas si quelqu'un il veut payer 80 millions pour un
mettre
milieu,
autant sur un milieu relayeur. Quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Je voulais qu'on parle du cas Dybala. Quand on parle de la Roma, on parle de Dybala. Évidemment, on se souvient de sa signature, la cérémonie folle en plein cœur de Rome devant le Colisée, la popularité du joueur. Il va achever sa quatrième saison. Celle-ci est très inaboutie à cause d'une longue période de blessures, Francesco. Pour toi, c'est clair. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut dire merci, au revoir au joyau, à la Roya Dybala. C'est fini.
Oui, c'est fini. Ça a été très beau, surtout les deux premières années. J'étais hyper content. On allait au stade en pensant qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, c'était le joueur classique que tu vas payer ton abonnement ou ton ticket pour voir. Et c'est le joueur le plus technique qu'a eu la AS Roma depuis l'arrêt de Francesco Totti. Donc pour nous, c'était une joie le voir. Mais après 4 ans. Désormais il a un certain âge et physiquement il n'est plus là. Cette année on n'a jamais vu Dybala, jamais. Et donc si c'est comme ça à 8 millions nets par saison, mais même à la moitié, c'est insoutenable. Et surtout il prend la place à quelqu'un d'autre qui pourrait jouer avec régularité. Il y a ça comme problème. Après on va le remercier pour toujours.
Bon, Dybala, expérience mitigée finalement à la Roma, tu l'as dit, de bonnes premières saisons, la première surtout, et depuis 2 saisons c'est très compliqué, c'est aussi un gros salaire à la Roma, il faut se délester des plus gros salaires hein, pour réduire la masse des revenus. Qui aura la main? Ça maintenant la grande question que beaucoup de supporters se posent sur le mercato, ça fait aussi partie des doléances de Gasperini, Daniele, choisir lui-même ses joueurs comme il le faisait à l'Atalanta avec le succès qu'on lui a connu quoi.
Oui, même si il faut dire Gasperini, il choisit pas très bien ses joueurs, c'est-à-dire des fois il vise un peu trop. Il avait demandé Wesley qui lui ont donné et Rios qui est parti au Benfica et à la place de Rios ils ont pris Elenaoui et lui il est pas content. Mais des fois aussi à l'Atalanta ça arrivait qu'il y avait des joueurs que il arrivait, ils avaient l'air tout à fait capables, tout à fait au niveau et il les faisait partir tout de suite. Jérémy Boga, par exemple, qui là il est en train de revenir à la Juventus, il a eu un très mauvais période à l'Atalanta. Simon Kier, que c'est un joueur qui était même à la Roma, c'était un défenseur agressif, technique, on pensait qu'il allait bien marcher avec Gasperini, non, il n'a pas marché du tout. Donc c'est un peu particulier, je pense, moi je ne suis pas de la philosophie que c'est l'entraîneur qui doit choisir les joueurs. On voit très bien des entraîneurs travailler bien avec des joueurs qu'ils n'ont pas choisis des fois. C'est le travail d'un directeur sportif. Hier, on a vu la Lazio gagner la demi-finale de la Coupe d'Italie avec un gardien que Sarri ne connaissait pas. C'est un gardien très jeune qu'ils ont pris, il ne devait pas jouer. Là, finalement, il est en train de jouer. Il a pris 4 pénaltys sur 5. Donc, c'est l'œil du directeur sportif. Il faut avoir ça. Après, il faut bien écouter l'entraîneur et chercher des joueurs avec les caractéristiques qu'il veut. Mais Gasperini, il est très très dur avec ses joueurs aussi.
Ouais, il est dur avec également son directeur sportif, hein, Federico Massara, hein, qui devrait s'en aller, Daniele, je pense. Hein, l'ancien de Rennes d'ailleurs. Hein.
Oui, mais là c'est différent. Parce que si on revient justement sur les mercato de la Roma, on ne peut pas dire que les Friedkin, ils n'ont pas assez dépensé. Ils ont beaucoup dépensé au fil des années, aussi ces dernières saisons, mais ils ont mal dépensé. Massara, il a fait un mercato qui a laissé beaucoup de trous. Ça fait plusieurs années que la Roma, elle n'arrive pas, par exemple, à trouver quelqu'un à la place de Cristante. Cristante, finalement, cette année, c'est devenu un des joueurs dans l'histoire du club avec le plus de présence. Moi, ça me fait mal au cœur de penser qu'Agostino Di Bartolomei, une légende de ce club qui a fait la finale contre Liverpool, il s'est suicidé 10 ans après, jour pour jour. Il est dans les cœurs de tous les supporters de la Roma, même ceux qui ne l'ont pas vu jouer. Il a été dépassé cette année par Brian Cristante, avec tout le respect et même l'amour qu'on peut avoir pour Brian Cristante, qui est un joueur normal. on peut dire médiocre même.
Moyen.
Qui va pas rester dans les cœurs des supporters de la Roma. Et c'est là,
Massara n'a
pas fait faire les sauts.
Francesco.
Ouais, pourtant, un des meilleurs.
Non, et pourtant, il est là. Et pourtant, il est là. Et pourtant, tous les entraîneurs, ils le font jouer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui peut lui voler la place. Et finalement, c'est ça le problème. La AS Roma a toujours les mêmes, arrive toujours sixième. Enfin, les dernières six saisons sont en photocopie. Sauf qu'au moins, dans le passé, on est arrivé au bout de la Coupe européenne. Et maintenant, il n'y a même plus la dernière saison et cette saison. Il n'y a même plus ça. Donc, il n'y a pas d'évolution. C'est ça qui finalement nous fait mal au cœur.
Quel est l'entraîneur idéal à la Roma ? C'est une question qu'on pose toujours à Marseille. Je fais souvent un parallèle entre ces deux équipes. Est-ce qu'il y a un profil, un portrait robot, les amis ? Sincèrement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on pense trouver un portrait robot et en fait, il n'y a pas de portrait robot.
Non, ben moi, je pense que Roma, c'est une ville qui, comment dire, l'essence de la ville, c'est l'euphorie. Il faut un entraîneur offensif, un entraîneur qui fait amuser, comme il a été Zeman, qui a été soutenu même si les résultats n'étaient pas bons. Di Francesco, c'est une ville que s'en souvient avec plus de plaisir, je pense, de la remontada contre Barcelone, de la demi-finale contre Liverpool, plutôt que peut-être la finale de Conference League. On a aimé gagner la Conference League, on a aimé Mourinho pour son caractère, mais finalement, c'était une souffrance. Cette ville, c'est une ville qui n'y a pas énormément de plaisir dans cette ville. C'est une ville difficile. C'est de plus en plus difficile. Donc, au moins, regarder le foot, ça doit être du plaisir. Ça doit redevenir du plaisir. Je pense que le public soutiendrait un entraîneur avec ambition, un entraîneur avec un peu de poésie aussi.
Il faut trouver votre Marcelo Bielsa, peut-être, voilà, à la Roma, pourquoi pas.
Non,
voilà.
Non.
Ah non, Francesco, surtout pas.
Non, Marcelo Bielsa, non, pas, s'il vous plaît. Non, mais quelqu'un comme Fabregas, je pense que la première choix de la saison dernière, c'était la bonne. Et il a démontré cette année. Et je suis toujours un peu orphelin de Luciano Spalletti, quand même. Il s'en fout, il a démontré aussi à la Juve. Hein, la Juve, c'est pas une grande équipe, mais il joue bien au foot et il est là depuis 6 mois. Donc, je pense que lui, ça me plaisirait. Ça me plairait bon, le voir encore une fois.
Merci les gars, c'était un régal de vous avoir avec nous dans cet épisode. J'étais heureux de présenter l'After Italy. Jérôme Sion sera de retour. Merci hein, Francesco Masselli, journaliste italien, pour correspondant à Rome pour l'opinion. Merci Daniele Manuccia, drôle de dame italienne, je me suis régalé. Et puis ça m'a donné envie de m'acheter un maillot également de la Roma bientôt aussi. Et de venir à un match. Mais j'avais essayé de venir voir un match à Olympico, c'est très compliqué hein, de trouver des places. Hein. Très très dur.
Ouais.
On va faire en sorte.
Merci. Merci messieurs et merci à tout le monde.
Merci
bye bye.
À vous.
RMC After Italie.